Il y a le chez-soi, il y a l'entreprise et il y a les tiers-lieux. Des espaces de travail collaboratifs qui se sont d'abord installés dans les grandes puis moyennes villes dans les années 2000, avant de débarquer à la campagne plus récemment. En fait, ces lieux qui ne sont ni le domicile ni le lieu de travail existent depuis bien plus longtemps, si l'on pense par exemple au café où l'on discute business. Toutefois, ces tiers-lieux, dans leur forme moderne, sont des espaces entièrement consacrés au travail, avec un fonctionnement propre. On en compte aujourd'hui pas moins de 1800 sur le territoire français. Citons pêle-mêle les Fab Labs, entendez laboratoires de fabrication ouverts au public, les cantines numériques ou encore les espaces de coworking. Assis derrière leur bureau, on y retrouve des entrepreneurs, des travailleurs dans le domaine du numérique, des indépendants également avec un point commun, ils sont souvent jeunes, diplômés, mobiles aussi. Mais alors qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de ces espaces de travail collaboratifs? Y a-t-il un risque d'entre-soi à se retrouver dans ces lieux où les profils se ressemblent? Quel regard les pouvoirs publics portent-ils sur ces lieux où se développent des projets, des activités économiques? Rappelons qu'à la fin du mois de septembre, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 110 millions d'euros sur les 3 années à venir pour développer les tiers-lieux dans les territoires. Mais alors quelles sont donc leurs espérances avec une telle politique? Autant de questions auxquelles nous allons répondre tout de suite. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invité est Gerhard Kraus. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité pour vous parler de mes recherches.
Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'Université Rennes 2, également membre du laboratoire ESO Rennes, ESO pour Espace et Société. Et vous êtes spécialiste de la sociologie des organisations, de l'entreprise, du travail et de l'innovation. Une de vos thématiques de recherche, ce sont les nouvelles formes d'organisation du travail dans ce qu'on appelle des tiers-lieux, on y reviendra. Et dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour.
Colette, c'est à vous.
En septembre, Patrick Lévivetz, qui dirige la fondation Travailler Autrement, a remis au gouvernement un rapport sur les tiers-lieux et le coworking. Selon ce rapport, il existe actuellement en France 1463 tiers-lieux, dont la moitié implantés hors des métropoles. À titre d'exemple, il y avait dans le Morbihan un tiers-lieu en 2013, mais 20 en 2017, dont un implanté dans une île, à Groix. Gerhard Kraus, vous vous intéressez à ces nouvelles formes d'organisation du travail, cantine numérique, start-up, Fab Lab, espace de coworking. Ces tiers-lieux, en fait, ils répondent à quels besoins et à quelles envies ?
En fait, on a commencé déjà à travailler sur cette question des tiers-lieux qui se développent en dehors des grandes villes et des métropoles dans un projet précédent qui a été financé par la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et le GIS Marsouin. Et on a constaté que il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans le numérique normalement, notamment, et qui sont des indépendants, des freelancers, et qui cherchent à ne pas travailler, ne plus travailler chez eux dans leur home office, mais d'être entourés, et qui ont aussi le besoin qui éprouvent le besoin de changer de cadre de vie et qui sont de plus en plus attirés par la possibilité de s'installer, de quitter les grandes villes et de s'installer dans les petites villes, dans les villes moyennes ou voire à la campagne. Alors que c'est un phénomène, les tiers-lieux, qui a débuté dans les grandes villes, dans les centres urbains, dans les villes comme San Francisco. Et au départ, les usagers, c'était des personnes très urbaines, très urbaine, des gens qui aimaient l'urbain. Alors il faut dire aussi que les gens que l'on trouve dans les tiers-lieux à la campagne ou dans les petites villes aujourd'hui, sont pour une partie des gens qui au départ étaient des urbains et qui ont par exemple fait leurs études dans des villes comme Paris ou dans des grandes villes et qui ont apprécié de bénéficier de toutes les infrastructures culturelles, économiques, etc. Que proposent les grandes villes, mais qui, à partir d'un certain moment dans leur vie, quand ils commencent à atteindre la trentaine, de vouloir changer de cadre de vie, fonder une famille, et à ce moment-là, c'est un choix qui est pris souvent par eux de s'installer en dehors des grandes villes et de quitter la ville. Alors il y a
Christian Lebar.
Oui, alors l'expression tiers-lieu est pas forcément encore connue de tout le monde. Elle fait évidemment écho. Alors le préfixe tiers est intéressant, hein, tiers secteur, tiers état, etc. Troisième, donc ce qui suppose le dépassement d'une sorte de 1 et 2 qui peuvent être le privé ou le public, je ne sais pas. Alors est-ce que vous pouvez me dire des choses sur l'expression et puis comme la recherche que vous avez pilotée est une recherche internationale, est-ce qu'il y a un lexique un peu stabilisé dans d'autres pays? Comment l'expression s'est imposée en français?
En fait, c'était la traduction du terme qui a été marqué par un sociologue américain qui s'appellerait Oldenburg, qui a parlé de « third places », mais aussi de third spaces.
Alors pourquoi donc, third? Qui était le first et le second?
Ça veut dire c'est le premier endroit ou la première espace, c'est la maison, le chez-soi. Deuxième, c'est l'entreprise. Et le troisième, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un entre les deux. Alors, il faut dire que d'un point de vue historique, alors, ça mériterait d'être creusé. Parce qu'il y a des ancêtres au tiers-lieu, c'est-à-dire ça a toujours existé sous des formes différentes. C'est simplement dans les années 1990, il y a un sociologue qui s'y est intéressé, qui a trouvé un terme pour appeler ça maintenant différemment. Mais moi, je pense que ça a toujours existé. Voilà, le forum romain ou les cafés où on se rencontre pour faire des affaires, aussi les repas d'affaires. Ça veut dire on sort du cadre.
Les clubs.
Oui, aussi. Il y a plein de formes différentes que l'on peut imaginer. Là, on peut faire des affaires, mais où on n'est pas dans les murs de l'entreprise. Et on n'est pas non plus chez soi. Donc, c'est cette idée-là qu'il y a un endroit. Et après, il y a des sociologues, il y a aussi des collègues en géographie. Ça a dépassé les frontières disciplinaires. D'autres disciplines qui s'y sont intéressées. Et on a essayé de théoriser ça un peu davantage. Mais moi, je pense que normalement, il faudrait qu'on associe aussi un historien à ce type de projet pour travailler justement sur les formes, les ancêtres de ce type de lieu. Et puis, alors, aujourd'hui, il y a différents critères qu'on met en avant. On dit que c'est un lieu neutre parce que c'est en dehors de l'entreprise, ni la maison, ni l'entreprise. Donc, c'est un lieu qui est libre d'accès. C'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire on peut y aller librement. Et puis, troisième critère, c'est aussi qu'il y a une récurrence des interactions. C'est-à-dire, ce sont plus ou moins toujours les mêmes utilisateurs. Il y a une certaine stabilité au niveau des utilisateurs, c'est-à-dire ça ne change pas de façon aléatoire. Il y a toujours, ça veut dire, il y a certaines, ou en tout cas un noyau d'utilisateurs qui utilisent toujours le même lieu, qui s'y rencontrent. On peut voir ça aussi dans la zen, je ne sais pas si on peut dire ça, une zen artistique ou une zen de gens très créatifs qui se rencontrent dans les bars, dans l'underground, mais c'est toujours les mêmes endroits, les mêmes bars, les écrivains qui se rencontrent dans les mêmes endroits. Et donc ça, c'est un critère aussi, c'est-à-dire c'est ça qui fait vivre l'espace. C'est-à-dire, il existe à travers à travers les pratiques récurrentes des acteurs.
Mais quand vous dites ce sont souvent les mêmes gens qui se rencontrent, donnez des exemples plus précis ou de métiers ou de filières ou de disciplines. C'est pas tout le monde qui se retrouve en ce moment dans un espace de coworking ou un Fab Lab.
Oui, alors il faut dire, bien sûr, ça reflète aussi les évolutions en cours de nos sociétés. Ça veut dire, c'est lié au processus de modernisation en cours. Et on constate que si le XXe siècle a été marqué par une extension du salariat, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, on n'a jamais été aussi bien protégé qu'à ce moment-là. Au tournant du siècle, depuis le début du XXIe siècle, depuis les années 2020, on constate une certaine renaissance du travail indépendant, c'est-à-dire aussi avec, c'est lié au problème de chômage, difficulté de trouver facilement un emploi stable, bien établi, et notamment dans les domaines du numérique, il y a de plus en plus de gens qui travaillent comme indépendants. Alors on pourrait dire, ils pourraient travailler très facilement chez eux. Pourquoi ? Ils sont prêts à payer pour fréquenter un espace de coworking, par exemple, parce que ça coûte une cotisation. Mais en même temps, il faut dire que c'est relativement faible et le risque est limité, c'est-à-dire on n'engage pas, on ne loue pas à durée, ça les engage pas sur plusieurs mois pour louer à temps complet un bureau, par exemple, dans des villes comme Paris où c'est extrêmement cher.
Et tout. Oui, oui.
Donc on peut louer de façon flexible selon ses besoins et c'est extrêmement intéressant pour un indépendant, un freelancer qui est aussi dans une certaine précarité, qui n'a pas des revenus stables. Voilà.
Alors, vous avez parlé de flexibilité à l'instant, tout à l'heure de créativité. Au fond, est-ce qu'on peut dire que ces tiers-lieux symbolisent vraiment le capitalisme du XXIe siècle ? Alors, est-ce que votre réflexion ne fait pas écho, par exemple, je pense aux travaux de Luc Boltanski sur le nouvel esprit du capitalisme qui valorise la flexibilité, qui valorise le dépassement des organisations rigides du XXe siècle et qui, alors même que ce sont des espaces tiers, c'est-à-dire un peu relégués a priori, un peu interstitiels, en réalité, le capitalisme de demain s'inventerait dans ces lieux-là, on peut dire ça ?
Alors, moi, je dirais, en tout cas, moi mon entrée, elle est différente. Je m'intéresse au parcours des personnes, c'est-à-dire ce sont des phénomènes qui émergent des pratiques des gens. Et ce qu'il faut dire aussi, quand on parle de cette population des usagers des tiers-lieux qui m'intéressent, ce sont des gens qui sont très éduqués au terme anglo-saxon du terme. Ce sont des gens qui ont les moyens d'être acteurs, de prendre leur destin en main. Et c'est ça, par exemple, aussi qui est la différence avec les gens qui vivent sur les territoires, là où ils s'installent, qui sont dans un modèle enfermé, dans un modèle ancien. Là, on a parlé beaucoup des gilets jaunes, etc., qui est une population tout à fait différente. Et donc, moi, ce que je constate, ce sont des phénomènes, des tendances, une évolution de la société qui est porté aussi par les parcours et les désirs des individus qui sont souvent très diplômés, qui ont les moyens, les ressources culturelles pour prendre en main leur destin, pour travailler comme indépendant. Et on constate quand même, ça correspond beaucoup aussi à des tendances d'individualisation ou d'individuation. Ça a été déjà repéré dès les années 80-90 que les sociologues ont dit, voilà, le processus de modernisation à la fin du XXe siècle est marqué par des fortes tendances d'individualisation ou d'individualisation dans la société actuelle. et on le retrouve exactement dans ces populations qui m'intéressent, c'est-à-dire ce sont des individus extrêmement individualistes, et d'où aussi la complexité de les inciter
à être ensemble,
à travailler ensemble, et c'est parfois assez compliqué, et on ne partage pas toujours facilement son réseau qui est lié à un créneau particulier qu'on occupe.
Mais justement, ce paradoxe, à la fois des gens très individualistes, très créatifs, et en même temps, dans vos travaux, vous notez le rôle très important du fondateur, créateur de ces sites. C'est pas seulement quelqu'un qui met des locaux à disposition,
oui,
il a tout un rôle et d'animation et de partage, de savoir, peut-être pas de savoir, mais au moins d'un carnet d'adresses, de rapports avec les élus municipaux, régionaux, etc. Ça, on y reviendra, mais comment ça se joue, voilà, ce paradoxe de à la fois je veux faire ce que j'ai envie de faire, ce côté ensemble dans des locaux, et peut-être pour faire des projets, des réalisations ensemble.
Oui,
et le rôle du fondateur, voilà.
Le rôle du fondateur, il est essentiel. Et on sait bien que tout ce qui concerne le relationnel, de créer des coalitions, de mettre les gens ensemble, de les faire coopérer, ça nécessite des compétences sociales, ça nécessite aussi un entraînement, et ça nécessite en quelque sorte des acteurs un peu exceptionnels aussi, qui sont capables de porter des projets et de les mener du début jusqu'à la fin. Et ce qu'on constate, c'est que quand on a un fondateur qui apporte ses qualités, ses caractéristiques, le tiers-lieu marche beaucoup mieux que quand c'est quelqu'un qui a déjà un réseau personnel un peu moins développé. Et on sait aussi, moi je sais ça aussi depuis mes travaux qui portaient sur les créations d'entreprises technologiques, que c'est beaucoup une affaire de réseau. C'est-à-dire, moi je suis quand même sociologue économiste, et je constate que pour réussir dans la vie économique, les acteurs économiques mobilisent couramment des ressources non économiques. C'est même essentiel pour réussir. Il faut des ressources non économiques. On ne peut pas se contenter de mobiliser uniquement des ressources économiques.
C'est quoi les ressources non économiques?
C'est les réseaux personnels dont on dispose. Alors ça a été démontré déjà par les sociologues, par Marc Ranovetter dès les années 1970, par exemple dans le domaine de la recherche d'emploi. Alors que les économistes néoclassiques veulent nous faire croire que ça joue pas de rôle, les sociologues ont démontré, au contraire, dans deux tiers des cas, on constate, les gens ont trouvé leur emploi grâce à des relations, et ils sont souvent même dans une meilleure position que celui qui était obligé de passer par le marché.
Christian Lemaire. Vous parlez de réussite, ce qui effectivement est d'abord un critère économique très, très important. C'est-à-dire, est-ce que ces espaces vont fonctionner? Est-ce qu'ils sont pérennes? Est-ce que il y a de la production de richesses de telle sorte que ceux qui s'investissent dans cette aventure puissent s'y retrouver? Quel bilan on peut en faire sur un autre terrain qui est celui des façons de travailler? Vous disiez que vous vous intéressiez plus aux acteurs et à leur trajectoire. Donc c'est plus du salariat, c'est clair. Ces auto-entrepreneurs très individualistes, sans doute très indépendants aussi. Donc comment est-ce qu'ils travaillent? Est-ce que ça veut dire une grande flexibilité des horaires? Est-ce que ça veut dire que la vie professionnelle devient une œuvre d'art, ou est-ce que c'est une caricature, ma foi?
Moi, je dirais que c'est une un petit peu une caricature. Et alors, j'ai oublié, peut-être, on a mis un peu trop l'accent peut-être sur les indépendants qui fréquentent ces espaces de coworking. Alors, il y a une certaine diversité quand même parmi la population. Il ne faut pas oublier cette grande diversité, à la fois d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue du statut des gens qui les fréquentent. Alors, il y a aussi des salariés qui fréquentent ces types d'espaces. J'ai rencontré même des cas d'étudiants de thésards qui, pendant un certain temps, fréquentent ces espaces pour avoir des bonnes conditions de travail, être tranquille. Alors, en ce qui concerne les salariés qui peuvent fréquenter un tel espace...
Je repose la question de tout à l'heure. Oui. Ils sont de quel secteur? Ils font quoi?
De tous les secteurs. Alors d'abord, bien sûr, le type classique, c'est l'indépendant ou l'entrepreneur qui dirige une agence web. Ça, c'est très courant. Des gens qui travaillent dans le numérique. Mais après, on a aussi, par exemple, des journalistes. J'ai rencontré aussi des journalistes. On a aussi des traducteurs. J'avais, dans un petit espace de coworking que j'ai étudié dans le sud-ouest de l'Allemagne, j'ai rencontré sur une dizaine d'utilisateurs deux traducteurs. Il y en avait un qui travaillait justement en tant que salarié d'un bureau de traduction de Francfort. Et c'était quelqu'un de très spécialisé. Il devait traduire des rapports d'activité qui s'adressaient aux investisseurs avec tous les termes spécifiques que vous pouvez imaginer qui sont difficiles à traduire pour quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans ce domaine. Et
donc des salariés, mais très indépendants quand même.
Très indépendants, qui travaillent comme un indépendant, mais qui sont salariés quand même. Et on peut avoir aussi cette construction parmi les gens qui ont créé ensemble une entreprise qui est très internationalisée, qui a été créé par plusieurs fondateurs et qui est dispersé, et quelqu'un travaille dans un espace de coworking parce que l'entreprise lui permet d'être là et parce qu'il a sa famille là, dans cette ville-là, il veut travailler là. Donc il s'arrange, il a les moyens pour s'arranger, de travailler là où il veut travailler. L'entreprise tolère et trouve ça même bien. Et
donc c'est c'est à la fois des gens qui sont un peu hors sol et qui en même temps, parce que la condition de travailleur hors sol n'est pas forcément très agréable, qui s'implantent dans un lieu.
Oui, alors dans ce nouveau projet que nous avons démarré il y a peu de temps, qui s'appelle Periwork et qui est un projet financé par l'ANR, nous sommes...
L'ANR, vous dites ce que c'est ?
L'Agence nationale de la recherche, et qui est un projet qui est financé sur 3 ans. Nous partons justement de l'hypothèse que ces populations qui nous intéressent poursuivent un projet global, c'est-à-dire le projet de vie et le projet professionnel sont complètement imbriqués. Et le projet professionnel se plie presque, est presque moins important que c'est-à-dire on s'arrange à rendre le projet professionnel compatible avec le projet de vie. C'est pour ça aussi, ils ont tant de facilité à prendre cette décision, à s'installer à la campagne ou dans des stations balnéaires, et maintenant aussi parce qu'ils veulent être près de la nature, mais être entourés de gens avec qui ils partagent une certaine complicité intellectuelle quant à la façon comment ils vivent aussi. Il y a aussi la question écologique qui est très importante. Et donc, il faut dire que cette population a les moyens pour décider comment ils veulent vivre et qui ne sont pas enfermés, elles aussi, qui veulent aussi maîtriser leur façon, comment ils se déplacent, font du covoiturage, même quand ils sont sur les territoires loin des grandes villes et qui ne sont pas du tout enfermés dans un modèle comme le modèle classique où on est, par exemple, on est dans les périurbains, on est dans une petite ville ou en zone rurale où il n'y a pas d'infrastructure en termes de transport et chaque membre de la famille a une voiture et se déplace seul en voiture. Donc ce sont des gens qui sont très différents de ce modèle qu'on a maintenant aussi un petit peu connu avec les gilets jaunes, la problématique. Et
donc eux, individualiste, mais en même temps en réseau, toujours.
Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai moi constaté, on peut avoir affaire aussi à des espaces de coworking, par exemple des tiers-lieux, où ils vivent beaucoup dans l'entre-soi et les interactions entre eux dans un même espace se limitent plutôt à des aspects...
On boit un verre, on partage des choses.
On parle des choses qui intéressent tout le monde, par exemple comment on fait ses tarifs, grâce à la communauté, on est capable d'augmenter ses tarifs et on ne se voit pas en dessous de sa juste valeur. Par contre, moi en tout cas ce que j'ai constaté, c'est beaucoup plus compliqué d'inciter les gens à travailler, à coopérer sur des projets concrets, parce que souvent ils sont assez éloignés, ils sont pas sur le même créneau, ça correspond pas, les besoins sont très spécifiques et donc les coopérations concrètes, dans les espaces que moi j'ai visité, j'ai beaucoup moins vu. Mes collègues qui ont travaillé sur la Bretagne m'ont raconté, ça se voit plus facilement dans les espaces qu'ils ont visités en Bretagne. Et moi, donc j'ai une expérience différente.
On va faire une pause musicale et on reviendra beaucoup plus longuement sur les aspects... dynamique positif et aussi négatif, évidemment, parce que là, ce que vous venez de nous dire, c'est un monde presque enchanté. On choisit son lieu, on choisit ses camarades dans un beau lieu et tout n'est peut-être pas aussi simple comme vous l'avez d'ailleurs suggéré. Donc on verra ça tout à l'heure. Là, une pause, le groupe The Wolf nous interprète Working Like a Dog.
À l'instant, c'était The Wolf avec le morceau Working Like a Dog. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'émission Chercheurs en ville et nous recevons Gerhard Kraus pour parler des tiers-lieux. En première partie d'émission, vous avez pu comprendre ce que sont ces fameux tiers-lieux et qui sont ceux qui les investissent. Dans un contexte de flexibilisation des formes de travail, souvent synonyme de précarité, ces espaces de travail collaboratifs accueillent des travailleurs indépendants, mais également des salariés, des étudiants qui partagent leur journée de travail. Le rôle du fondateur est alors essentiel pour faire vivre ces tiers-lieux, en mobilisant des ressources économiques, mais également non économiques, par exemple avec le réseau. À présent, il va être question du risque d'entre-soi, puis de la place des pouvoirs publics dans ces projets, avec les exemples français et allemands, et enfin des différentes échelles sur lesquelles évoluent les différents tiers-lieux. Pour en parler, Gerhard Kraus, maître de conférences en sociologie à l'Université Rennes 2, il répond aux questions de Colette David et Christian Lebar, tout de suite dans la deuxième partie de Chercheurs en ville.
Gerhard Kraus, nous parlons donc des espaces de coworking, Fab Lab, et l'installation de personnes diplômées, éduquées, beaucoup dans le secteur du numérique par exemple, ou de la communication, qui s'installent à la campagne, dans des périphéries, dans des banlieues, etc. Est-ce que un des risques, c'est aussi que ces groupes de gens qui ont choisi dans un premier temps, on verra après si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, mais qui ont choisi cette installation, est-ce que le risque c'est pas un entre-soi? Et quel rapport ils ont avec, moi je dis les riverains, leurs voisins, les autres salariés, les autres commerçants, les autres familles autour de leur espace tiers-lieu, quel rapport ont-ils avec ces gens qui sont plutôt dans des pratiques anciennes de salariés, de fin de mois difficiles, de transports difficiles quand on est en banlieue ou à la campagne? Comment ça se passe?
Oui, alors il faut dire que le risque de l'entre-soi est réel. Alors ma collègue Flavie Fergeot, elle a observé ce type de phénomène aussi dans le cas des Fab Labs. Moi, je l'ai observé dans le sud-ouest de l'Allemagne. Et puis, il parlait en fait pas beaucoup de l'interaction avec les riverains. Et moi, je m'étais intéressé à l'époque aussi à la question des interactions avec les pouvoirs publics. Alors là, ils m'ont fait comprendre que ça, bon, pour eux, c'est pas si important que ça. Mais il faut aussi rappeler le contexte qui peut être différent d'un pays à l'autre. Alors en France, par exemple, notamment en Bretagne, mais c'est un constat général pour la France qu'en France, les pouvoirs publics s'emparent beaucoup plus de ce sujet, sont beaucoup plus impliqués que dans d'autres pays. Dans le sud-ouest de l'Allemagne, par exemple, c'est évident, cette absence des pouvoirs publics dans le contexte du sud-ouest de l'Allemagne, d'une région qui est économiquement très prospère, où vous avez les usines, le siège de Mercedes, de Porsche, de Bosch, toutes ces entreprises qui exportent au-dessus de la moyenne nationale. Et donc tout est centré sur ces acteurs bien établis, les entreprises établies. Il y a déjà pas une grande culture de start-up. Et puis, donc là, il y a aussi les conditions de contexte régional qui font que le risque est peut-être plus élevé. Et donc, moi, je l'ai constaté, ce sont des gens qui sont chacun très spécialisés et qui interagissent, qui sont dans une communauté conviviale, qui parlent de choses qui les intéressent tous, comme par exemple comment faire ses tarifs, comment
vis-à-vis
des clients, comment négocier les tarifs, et ils lancent aussi des séminaires par exemple pour pour favoriser l'interaction, l'échange intellectuel entre eux. Mais sinon, si on regarde de près, chacun étant très spécialisé, est sur un créneau assez spécifique, avec des besoins très spécifiques en termes de coopération potentielle, et chacun dispose déjà de son réseau de relations bien développé, ce qui fait qu'il n'est pas dans la nécessité de demander à d'autres coworkers de lui donner des contacts.
Ok. Christian.
Oui, si on revient sur le travail de Flavie Ferchaud, donc qui a comparé des Fab Labs à Rennes, à Toulouse, à Gand, en Belgique, ce qu'elle montre bien, me semble-t-il, c'est à la fois donc ce fonctionnement en réseau dans des secteurs parfois très pointus, mais aussi paradoxalement un côté un peu bulle, un peu clôture du lieu, en particulier à l'échelle du quartier. Ça, les interactions entre ces espaces, ces tiers-lieux et les quartiers dans lesquels ils s'inscrivent, alors c'est plutôt en ville qu'en campagne, sont assez faibles, alors même, spécificité française en particulier, alors même que les pouvoirs publics s'y intéressent beaucoup, essaient d'avoir des interactions qui parfois d'abord prennent la forme de régulation, parce que voilà, c'est aussi des lieux un peu innovants et parfois un peu singuliers qui déstabilisent un peu les pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics ont le sentiment qu'il faut prêter oreille à ce qui se fait dans ces lieux-là, parce que c'est peut-être l'innovation de demain qui se joue.
Oui, alors, moi je dirais que c'est une approche particulièrement française, pour moi. On n'a même pas au Canada, les pouvoirs publics sont beaucoup moins impliqués. Alors, dans le contexte du sud-est de l'Allemagne que j'ai étudié, les priorités sont ailleurs. C'est-à-dire, ce sont des quand les pouvoirs publics s'intéressent à des secteurs innovants, ce sont des domaines qui sont en lien avec des secteurs bien développés en recherche à l'université, parce que c'était une ville universitaire où j'ai étudié l'un des espaces. Et donc, les attentions sont ailleurs. Le coworking, les indépendants, c'est un peu secondaire, c'est un petit peu en décalage par rapport au point fort de l'économie régionale. Et donc, ici, ça n'intéresse pas beaucoup, parce que c'est pas une priorité. Mmh. Et du coup, on a ce phénomène que c'est porté par des initiatives privées, surtout.
C'est des privés qui ouvrent des Fab Labs, des espaces de
coworking. Ce sont des initiatives privées qui après peuvent chercher du soutien. Alors, la ville, elle écoute. Donc, il y a par exemple un conseiller qui s'occupe du développement économique du territoire, etc., qui est présent, qui échange avec ces gens, qui les a même aidés à avoir accès à des locaux. Mais ça se limite à ça. Il n'y a pas de subvention, par exemple. Alors qu'en France, en Bretagne, on observe le phénomène que les collectivités, les municipalités prêtent des locaux, qu'ils subventionnent activement cette activité. Et il y a même des cas où les acteurs, les élus cherchent avec la création d'un tiers-lieu, par exemple, un moyen pour redynamiser l'économie
du territoire, etc.
Et trouver de l'emploi. Alors que ce phénomène, moi, j'ai pas du tout vu en Allemagne. Puis après, moi, j'ai eu l'impression, c'est un petit peu comme une île, les riverains ne savent pas exactement ce que c'est qui passe là, mais...
Mais par exemple, en France, avec cette présence et des mairies, et des régions, et de l'État, on y reviendra. Donc, les pouvoirs publics donnent des lieux, donnent de l'argent. En contrepartie de quoi ? Qu'est-ce qu'ils attendent ?
Oui, ils espèrent que ça a un impact sur le développement économique sur les territoires, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se créent, des activités se créent dans ces lieux et qu'il y a des gens qui sont attirés, qui se disent, tiens, au lieu de travailler, de me déplacer en ville, je vais localiser mon activité ici. Donc c'est le point de départ d'un développement vertueux. Et après, par rapport à l'innovation, dans le premier projet que nous avons mené avant le projet actuel, nous avons voulu chercher ou repérer des projets innovants dans ces tiers-lieux. Or, nous en avons trouvé très peu qui sont vraiment innovants.
C'était quoi ces projets innovants ?
Alors, les projets innovants, nous avons pensé...
Dans quel domaine ?
Normalement, nous avons pensé que les tiers-lieux, ça devrait favoriser la coopération, ça devrait rendre plus facile des projets d'innovation à plusieurs. Et quand on est allé sur les lieux, on a eu beaucoup de mal il y a des projets innovants, certes aussi, mais c'est pas la majorité des cas. Alors la majorité des cas, ce sont des agences web, des programmeurs qui font des choses, pas vraiment, qui sortent pas vraiment du cadre exceptionnel.
Oui, à ce moment-là de la discussion, me vient le souvenir d'un travail que vous aviez coordonné avec Guy Bedel, qui était vraiment passionnant, sur les musées d'art contemporain et sur leur place. Alors, c'était dans les villes, exclusivement, oui. Mais des villes qui pouvaient être... c'était Metz, c'était Lens, c'était Bilbao, c'était Istanbul, etc. Et vous posiez déjà cette question, qui est évidemment une belle question de sociologie économique, celle de mesurer éventuellement le décalage qu'il pouvait y avoir entre les espérances des pouvoirs publics qui, en France en particulier, libérait beaucoup de moyens pour faire exister ces lieux, et la réalité d'un impact économique qui était toujours très difficile à mesurer. Alors là, on retrouve un peu la même interrogation, qui est une belle question de sciences sociales, mais qui est aussi pour les politiques une question très importante.
Oui, alors quand on a démarré le projet sur les musées, on avait constaté qu'il y a certains projets qui sont très visibles et qui sont des grands succès, comme par exemple la création du musée Guggenheim à Bilbao. Mais on a constaté aussi, en tout cas, j'avais lu à l'époque un article dans un hebdomadaire allemand, Die Zeit, qui est un grand hebdomadaire connu, et qui avait présenté une analyse de ce phénomène et qui avait justement identifié le problème que parmi les créations de nouveaux projets, de nouveaux musées, il y avait énormément d'échecs aussi. C'est-à-dire, on voit juste la pointe du iceberg, oui. C'est-à-dire ceux qui réussissent. Et on oublie que au niveau des petites villes aussi, même des moyennes et petites villes, il y a des projets énormes. Il y avait énormément de projets de création de nouveaux musées. Et puis, au bout d'un certain temps, assez rapidement, ils n'avaient plus de financement, ils avaient des difficultés à pérenniser ça. Donc, on commence à réduire les horaires d'ouverture, le personnel. Et puis, à la fin, on finit par fermer. Et donc, il y a énormément de projets qui ont échoué. Donc, on s'est intéressé aux facteurs qui favorisent le succès de ce type de projet. Et donc, bien sûr, on est arrivé à constater que c'est beaucoup du succès dépend d'un bon réseautage, du développement du réseau et ce qu'on appelle aussi l'encastrement social des projets sur un territoire.
Oui, mais une des leçons que vous tiriez aussi de cette recherche était que c'est extrêmement difficile d'évaluer l'impact économique de ces projets. Et que donc, du coup, il peut y avoir je dirais, du discours politique un peu facile sur le mode ça marche, c'est de l'innovation, etc., sans qu'on prenne vraiment le temps de mesurer des retombées qui sont parfois pas du tout à la hauteur de ce que le discours politique prétend.
Oui, et souvent les élus sont quand même sous une pression de devoir décider des choses rapidement, et on a constaté un petit peu, en ce qui concerne les petits projets dans les villes plutôt petites qui ont échoué dans le cas des musées, que voilà, c'était un petit peu, ça reflétait un petit peu le désespoir des élus de pas trouver le moyen de moyens qui marchent pour redynamiser le territoire. Donc ils ont entendu parler de Bilbao, etc., alors que c'était des projets qui fonctionnent dans des configurations très spécifiques.
Mais le raisonnement n'est pas transposable.
Chaque cas est différent. Et moi, j'ai étudié le cas du centre Pompidou à Metz, qui est plutôt une réussite. Et là, j'avais à l'époque interrogé l'ancien directeur du centre, le premier directeur du centre Pompidou à Metz, qui est maintenant le directeur du musée Picasso à Paris, qui m'a raconté que pendant 5-6 ans, il a fait du réseautage pour préparer le terrain. Il est allé sur le terrain pour rencontrer non seulement les élus, mais tous les acteurs du domaine culturel, pour essayer de créer des liens avec les acteurs culturels du territoire. Parce que sinon, si on impose comme un ovni une structure qui vient de l'extérieur, qui est parachutée, et les autres acteurs se bloquent parce qu'ils ont peur que ça leur mange leur budget, qu'ils n'ont plus le budget. On a toutes les raisons de penser que ça va échouer. Or, et ça nécessite le réseautage, c'est extrêmement compliqué et ça nécessite beaucoup de temps. Le travail relationnel, il faut être très habile, etc.
C'est vrai qu'il y a des leçons à tirer, mais vu de ma fenêtre, il n'y a aucune commune mesure entre des monstres comme le Guggenheim ou le Pompidou à Metz et l'espace de coworking à Barbechat ou à Radon ou à la Chapelle Lelin. C'est quand même qu'il y ait besoin de réseautage comme vous dites, mais là c'est quand même des investissements de sans commune mesure avec je change un hangar en espace de coworking dans une banlieue de chez nous quand même.
Alors après, bon, moi je pars toujours de cette idée que le succès dépend de l'encastrement social. Alors en ce qui concerne les tiers-lieux ou les espaces de coworking, on peut peut-être distinguer différentes formes d'encastrement social et encastrement familial. Oui. Social, institutionnel, et on constate que, donc comme j'ai déjà dit, le parcours du fondateur d'un tiers-lieu est extrêmement important et son encastrement social et familial sur le territoire. Et donc s'il est bien, s'il se sent bien sur le territoire, donc c'est un grand avantage pour le succès.
Sure.
Du tiers-lieu. Alors, juste entre parenthèses, moi, dans mes enquêtes, j'ai beaucoup pu observer le phénomène aussi qu'un fondateur s'est installé dans une ville moyenne parce qu'il a suivi sa femme. Donc, le fondateur du tiers-lieu, qui est un indépendant, qui peut bouger son agence, son entreprise, n'importe où, où il veut, la femme qui est enseignante, qui est nommée dans tel ou tel lycée, il la suit. Donc, il crée un tiers-lieu là où sa femme a trouvé un poste. J'ai trouvé ça plusieurs fois. Donc, dans beaucoup de...
Et l'inverse ?
Alors, l'inverse, parce qu'il y avait beaucoup moins
masculin,
de femmes.
C'est
il y
un
avait...
monde masculin ?
Moi, j'ai trouvé peu de femmes. Alors, si, il y avait quand même des femmes... mais ce modèle, c'est-à-dire qu'on suit son conjoint, c'était l'indépendant qui a une agence web, qui suit sa femme. Alors, ça peut être dans la ville universitaire. J'ai eu plusieurs cas où la femme était dans la recherche, était par exemple médecin ou en recherche biologie moléculaire et qui avait un postdoc ou qui était dans le cadre d'un projet de recherche aux États-Unis, en Australie aussi. Et donc voilà, l'indépendant qui travaille dans le numérique sans attache particulière, il suit sa femme là où, okay. où sa femme doit aller professionnellement sans problème.
Gerhard Kraus, c'est quasiment la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pensez de l'annonce par le gouvernement à l'automne d'un plan pour renforcer, soutenir ces tiers-lieux, ces espaces de coworking? L'État débloquerait 110 millions d'euros sur 3 ans pour, je cite, renforcer, sélectionner des 300 fabriques des territoires dans les campagnes et quartiers défavorisés.
Oui, alors c'est toujours bien d'avoir du soutien pour des activités que l'on peut juger prometteurs. Alors la seule chose qu'il faut pas oublier qu'on a ici à faire, si on veut faire vivre ces espaces et les soutenir de façon intelligente, il faut pas oublier qu'on a affaire à des, comme je l'ai dit, à des gens très individualistes, des gens qui sont une personnalité forte souvent et qui veulent pas forcément être récupérés par l'État. Alors si l'action consiste à vouloir uniformiser les pratiques, là je pense que c'est assez risqué, ça peut les faire fuir et les gens qui sont des créatifs dans un espace donné peuvent évoluer après vers d'autres endroits et puis ça c'est le risque qu'on peut courir. Voilà, pour être bref.
Fin de cette émission. Gerhard Kraus, vous allez publier cette année, enfin l'an prochain, 2019, un ouvrage avec Diane Gabriel-Tremblay qui s'intitule « Tiers-lieux, travailler et entreprendre sur les territoires, espace de coworking Fab Lab à Clab », qui sera publié aux Presses universitaires de Rennes, donc dans quelques mois. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci Christian Lebar. Merci notre réalisatrice Lucie Louapre. Et rendez-vous dans un mois pour une autre édition de Chercheurs en vie.